chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix d'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Citoyens indonésiens, victimes des incendies de forêt à évacuer vers des abris officiels. KP2MI encourage MBG à tendre la main au groupe de travailleurs migrants. Soutien de la République d'Indonésie à la Palestine est donné de toutes parts. Banque centrale de Biélorussie continue de renforcer sa stratégie de stabilisation du taux de change en fonction des fondamentaux. 407 350 Palestiniens bénéficient de l'aide de la République d'Indonésie via BASNAS. Gouvernement provincial de Sumatra du Sud exporte 59,4 tonnes de café vers la Malaisie et l'Australie. Et Indonésie prête à faire face aux conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bonjour, je vais te revoir. Le nouvel en complet. Le consulat général de la République d'Indonésie, KJRI, à Los Angeles, rappelle aux citoyens indonésiens touchés par les incendies de forêts et de terres Karhutla à Los Angeles en Californie d'évacuer uniquement vers les lieux officiels. La consul de l'information et des affaires socioculturelles du consulat général d'Indonésie à Los Angeles, Afina Burhanuddin, a déclaré à Antara à Jakarta mercredi 15 janvier que les camps des réfugiés établis par le gouvernement local en collaboration avec la Croix-Rouge américaine étaient ouverts à tous les résidents concernés sans distinction de nationalité. Elle a également confirmé qu'un certain nombre de citoyens indonésiens qui ont été contraints d'évacuer en raison de l'impact des incendies de forêt et de terre ont accès à des centres d'évacuation fournis par le gouvernement local. Jusqu'à présent, 163 citoyens indonésiens, membres de la diaspora et étudiants, ont été recensés comme étant touchés par les incendies de forêt à Los Angeles. Elle a ajouté que le consulat général d'Indonésie à Los Angeles a également préparé des camps de réfugiés et des fournitures logistiques pour les personnes dans le besoin. Le ministère de la Protection des travailleurs migrants indonésiens, KP2MI, encourage le programme de repas nutritifs gratuits, MBG, pour atteindre les groupes de travailleurs migrants indonésiens, PMI, en particulier dans les régions. Le ministre du P2MI, Abdul Kadir Karding, a déclaré mercredi à Tangerang, 14 janvier, que la portée du programme MBG devrait être plus large, en particulier pour soutenir les poches de travailleurs migrants dans plusieurs régions d'Indonésie, telles que Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Nusa Tenggara orientale et Nusa Tenggara occidentale. Selon Antara, le programme MBG est une véritable manifestation de l'engagement du gouvernement à améliorer la qualité de la nutrition et de la santé publique, en particulier celle des enfants, qui constituent la prochaine génération du pays, avec un apport alimentaire nutritif. On espère que les enfants pourront grandir en bonne santé, intelligents et très compétitifs, afin qu'ils soient capables de relever les défis à l'avenir. Ce programme ne vise pas seulement à répondre aux besoins alimentaires de base, mais s'inscrit également dans une démarche stratégique visant à soutenir la réalisation des objectifs de développement durable ODD, notamment l'élimination de la faim, la réalisation de la sécurité alimentaire et amélioration de la nutrition. Des repas nutritifs gratuits seront fournis aux élèves une fois par jour pendant 5 jours par semaine avec un budget conforme aux dispositions du centre, tandis que pour les bénéficiaires non universitaires, la coordination est toujours en cours. Le président de l'Assemblée consultative du peuple de la République d'Indonésie, Mpr Eri Ahmad Muzani, a souligné que le soutien de l'Indonésie à la lutte pour l'indépendance palestinienne s'est manifesté de presque toutes les parties de la politique à l'humanité. Il a fait cette déclaration lors d'un discours prononcé lors de l'activité d'exposition publique « Laver les blessures de la Palestine » initiée par l'Agence nationale d'Omon ou Basnas de la République d'Indonésie au complexe du Parlement à Jakarta mercredi 15 janvier. Selon Muzani, outre le gouvernement indonésien, l'aide humanitaire est également fournie par la communauté palestinienne par l'intermédiaire d'institutions de distribution telles que Basnas et divers autres. Il a expliqué les raisons pour lesquelles le peuple indonésien était si enthousiaste dans la lutte pour l'indépendance palestinienne. Cette décision était fondée sur l'histoire politique car la Palestine fut le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. En outre, il a déclaré que les 10 principes de Bandung qui étaient le résultat de la conférence Asie-Afrique de 1955 demandait à l'Indonésie d'apporter son soutien aux pays asiatiques et africains pour qu'ils soient libres et indépendants du colonialisme. C'est pourquoi il a souligné que le soutien de l'Indonésie à la Palestine n'est pas seulement lié à des facteurs religieux, mais aussi humanitaires. Il espère également qu'à la fin, la Palestine pourra obtenir son indépendance comme d'autres nations du monde. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, BI, Peri Warjio, a déclaré que la Banque Indonésia continuerait de renforcer la stratégie de stabilisation du taux de change de la roupie conformément à ses fondamentaux. Cela se fait par le biais d'interventions sur le marché des changes sur les transactions au comptant, les contrats à terme non livrables nationaux des MDF et les titres d'État SBN sur le marché secondaire. Peri, lors d'une conférence de presse sur les résultats de la réunion du Conseil des gouverneurs de Banque Indonésia RDG en janvier 2025 à Jakarta, mercredi 15 janvier, a déclaré que Banque Indonésia continue d'acheter du SBN sur le marché secondaire. Dans le même temps, l'achat des SBN par la Banque Indonésia sur le marché secondaire sera effectué par les acteurs du marché et via un mécanisme d'échange bilatéral des SBN ou changement de dette bilatérale avec le gouvernement. Il a été déclaré qu'en 2025, le mécanisme d'échange SBN serait un partage des charges qui arriverait à échéance en 2025 à environ 100 000 milliards de roupies. À la même occasion, la vice-gouverneure principale de Banque Indonésia, Destri Damayanti, a également souligné que Banque Indonésia continuera d'être présent sur le marché des interventions, à la fois au comptant et en DNDF. Elle a ajouté que le renforcement des opérations monétaires continuera également d'être optimisé afin de stabiliser le taux de change de la roupie. Au total, 407 350 Palestiniens ont bénéficié de l'aide du peuple indonésien distribuée par l'intermédiaire de l'Agence nationale indonésienne, Domon ou Basnas, la valeur de l'aide atteignant 120 milliards de roupies. Le président de Basnas de la République d'Indonésie, Nur Ahmad, a déclaré lors de l'activité d'exposition publique « Laver les blessures de la Palestine » au complexe du Parlement de Jakarta mercredi 15 janvier que le montant de l'aide reflète pas seulement la grande préoccupation du peuple indonésien pour les questions humanitaires en Palestine, mais c'est aussi la preuve que la solidarité et la préoccupation transfrontalière de l'Indonésie envers la Palestine ressentent vivante et forte. Lors de l'événement Basnas, RI a également élargi le réseau de distribution de l'aide humanitaire pour la Palestine en signant un protocole d'accord MOU virtuellement avec des institutions officielles de confiance, à savoir l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Organisation caritative Hachémite de Jordanie et Fondation du roi Hussein contre le cancer. En effet, le mandat de don au peuple palestinien Nour a déclaré que son parti a distribué l'aide à travers plusieurs canaux de distribution sûre, rapide et ciblée à travers trois méthodes, à savoir la distribution directe, la distribution par l'intermédiaire des partenaires non palestiniens et la distribution par l'intermédiaire des partenaires locaux de Gaza. Il a ajouté que Basnas distribue également avec un certain nombre de partenaires extérieurs non palestiniens, dont l'Égypte, sous les auspices de Bayt al-Zakat ou al-Sadaqat al-Misri. Sunna al-Haya et Misr al-Hayr. La société du Croissant Rouge égyptien, Nour, a souligné que son parti envisage également de soutenir la reconstruction en Palestine en construisant des hôpitaux, des mosques et des écoles indonésiennes. Le gouvernement provincial de Sumatra du Sud, en collaboration avec l'autorité des services financiers et l'agence de quarantaine des animaux, des poissons et des plantes, a exporté 59,4 tonnes vers l'Australie et la Malaisie. Le 20 janvier 2025, le gouverneur par intérim de Sumatra du Sud, Hélène Setiadi, à Palembang, mercredi 15 janvier, a déclaré que la première exportation de café du sud et de Sumatra sera effectuée via le port de Boum Baru à Palembang, ce qui est prévu pour le 20 janvier 2025. Selon Hélène, le sud de Sumatra est le plus grand producteur de café au niveau national. Il a ajouté que cette exportation de café formerait plus tard un écosystème intégré. Il espère que les futures exportations de café du sud de Sumatra auront un impact sur l'augmentation de la production de café par les agriculteurs locaux du sud de Sumatra. Selon lui, l'impact économique de ce produit de base du café pourra améliorer le bien-être des populations, notamment celui lié à la alphabétisation dans le traitement de bons grains de café de qualité exportable. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Budi Santoso, a déclaré que l'Indonésie était prête à faire face à l'impact de la guerre commerciale potentielle entre les États-Unis et la Chine. Budi a déclaré à Jakarta mercredi 15 janvier que le potentiel d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine devrait émerger après l'accession officielle de Donald Trump à la présidence. Trump est connu pour avoir proposé une politique tarifaire de 100% pour les pays membres du BRICS et une augmentation de 60% des tarifs sur les produits chinois, ce qui risque d'accroître les tensions géopolitiques et de perturber les chaînes d'approvisionnement mondial. Budi a déclaré que l'une des clés pour maintenir l'économie au milieu de cette tension est d'accroître la compétitivité. Selon lui, une forte compétitivité rendra l'Indonésie attractive pour les autres pays car elle excelle dans le commerce des biens et des services. En outre, a déclaré Boudi, le gouvernement va essayer une nouvelle approche pour établir une coopération économique bilatérale avec les États-Unis. Bon, chers, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Zeritok, bonsoir. Voici le commentaire dont le titre est AGE 2025, collaboration entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite pour le meilleur service. L'accord de AGE entre le gouvernement indonésien et le royaume d'Arabie Saoudite pour la saison de AGE 1446 Hijriah ou 2025 après Jésus-Christ est une étape importante dans la préparation du pèlerinage de AGE de cette année. La signature effectuée par le ministre indonésien de la Religion, Nasruddin Umar, et le ministre du Hajj et de la Umrah d'Arabie Saoudite, Taufik F. Al-Rabi'ah, le 12 janvier 2025, montre l'engagement des deux pays à fournir les meilleurs services du Hajj aux pèlerins indonésiens. Cette année, l'Indonésie a reçu un quota de 221 000 personnes et de 2210 officiers du Hajj. Ce chiffre représente en réalité une baisse par rapport au quota de 2024, où l'Indonésie avait reçu un quota de 241 000 personnes pour le Hajj, ainsi que plus de 40 000 officiers du Hajj. Néanmoins, le gouvernement tente toujours d'augmenter le nombre d'agents de 2% du nombre de pèlerins afin d'assurer un service plus optimal. Cette étape est importante compte tenu du grand nombre de pèlerins qui ont besoin d'encadrement et de soutien pendant le pèlerinage du Hajj. Mais au-delà des chiffres, la signature de ce protocole d'accord souligne l'importance de la connaissance des règles et de l'éthique, je veux dire, et de l'éthique inter-sainte. Il a rappelé aux fidèles de maintenir l'ordre, de respecter le caractère sacré des lieux de culte et de se conformer aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne les activités publiques et l'utilisation d'appareils électroniques. Cela fait partie d'un effort visant à garantir que le pèlerinage du Hajj se déroule non seulement sans heurts, mais qu'il soit également solennel et que sa sainteté soit préservée. La coopération entre la mairie et la République saoudite pour l'organisation du pèlerinage du Hajj dure depuis des décennies. Espérons que le lobbying mené par le ministère de la Religion et d'autres parties concernées permettra d'augmenter le quota de pèlerins indonésiens et d'officiers du Hajj dans les années à venir, compte tenu de la longue liste d'attente des personnes qui souhaitent effectuer le pèlerinage du Hajj. Espérons qu'avec une préparation minutieuse, tant de la part des organisateurs, des responsables du Hajj que des pèlerins, le pèlerinage du Hajj 2025 puisse être un pèlerinage sûr, confortable et béni pour tous les pèlerins indonésiens. C'est Jurita, c'est le commentaire pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 janvier, journée internationale de la liberté religieuse. La journée de la liberté religieuse est célébrée chaque 16 janvier en Amérique. National Today a écrit que les médias et le gouvernement américain avaient mis des années à lutter pour l'indépendance religieuse. La naissance de cette journée de commémoration a eu lieu le 16 janvier 1993. Pendant ce temps, la signature historique de la loi sur la liberté religieuse internationale en 1998 a également joué un rôle majeur dans les libertés religieuses dans ce pays. Même si actuellement, les gens sont plus tolérants à l'égard de la diversité religieuse. Cette journée est un rappel aux générations futures de perpétuer le sens de la tolérance et du respect. Passant à l'événement du 16 janvier 2001, le président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, est assassiné. Laurent Désiré Kabila est président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Laurent Désiré Kabila a été abattu par son garde du corps adolescent. L'incident tragique s'est produit au palais présidentiel de Kinshasa. À cette époque, Kabila discutait avec son conseiller économique. Un garde de corps de 18 ans s'est avancé, a sorti une arme à feu et a tiré 4 fois. Le palais a nié l'incident. Le ministre congolais de la justice, Mwenze Kongolo, a déclaré dans un communiqué que Kabila avait été abattu par son garde de corps, Rachidi Kasereka. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 janvier 2006. Ellen Johnson Sirleaf a été investie comme présidente du Libéria. Le 16 janvier 2006 a été un jour historique pour l'Afrique, en particulier pour le Libéria. Ce pays officiellement dirigé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf, elle est devenue la première femme africaine à être élue chef d'État. Ce jour-là, elle a été prêtée serment devant le peuple libérien et les invités d'État, parmi lesquels la première dame des États-Unis, Laura Bush, épouse du président George W. Bush, et la secrétaire d'État américaine, également une femme, Condoleezza Rice. Ellen Johnson Sirleaf a été réélue en novembre 2011. C'est Jurita, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Voice of Indonesia. Yeah.
make his pretty delicious. You can tidy it even when you're sick. Your vehicle.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre... L'Indonésie est prête à lancer un système de commerce international du carbone. Le ministère de l'Environnement, Agence de contrôle de l'environnement, BPLH, a confirmé que l'Indonésie est prête à lancer son premier commerce de carbone à l'étranger qui devrait débuter le 20 janvier 2025. Dans un communiqué officiel à Jakarta, vendredi 10 janvier 2025, le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré que le premier échange de carbone étranger a été réalisé via la bourse indonésienne du carbone, IDX Carbone, et impliqué plusieurs projets énergétiques stratégiques dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs climatiques de l'Indonésie. Auparavant, le ministre de l'Environnement en tant que chef de la BPLH, Ani Faisal Nurofik, avait déclaré que le lancement avait été réalisé en assurant l'optimisation du système national d'enregistrement CRN, ainsi qu'en préparant les infrastructures et autres instruments. Il a veillé à ce que le commerce du carbone soit mené à bien pour atteindre les objectifs climatiques de l'Indonésie, tels qu'énoncés dans le document de contribution déterminée au niveau national NDC. Le commerce du carbone impliquera plusieurs projets énergétiques stratégiques potentiels et devrait permettre de réduire les émissions jusqu'à 750 000 tonnes d'équivalent CO2, contribuant ainsi de manière significative aux efforts de décarbonisation du secteur énergétique. Pendant ce temps, le député chargé du contrôle du changement climatique et de la gestion de la valeur économique du carbone, NEK, du ministère de l'Environnement et Agence de contrôle de l'environnement, KLH-BPLH, Ari Sudianto, a déclaré mercredi 15 janvier 2025 que l'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement, KLH, de l'Agence de contrôle de l'environnement, BPLH, de l'Agence de gestion du fonds de l'environnement, BPDLH, la Bourse d'Indonésie, BEI, et l'autorité des services financiers, OJK, prennent des mesures concrètes en faveur du commerce international du carbone. Selon lui, l'Indonésie est prête à être à l'avant-garde pour accélérer la mise en œuvre du commerce international du carbone. Il a expliqué que cette étape faisait partie dans le cadre des efforts visant à atteindre l'objectif de la contribution déterminée au niveau national NDC, tout en soutenant la mise en œuvre des articles 6.2 et 6.4 de l'accord de Paris. Le président directeur de l'agence de gestion du Fonds de l'environnement, BPDLH, Djoko Triharyanto, a déclaré que ce moment est une opportunité en or pour l'Indonésie de jouer un rôle stratégique dans la réduction des émissions mondiales. Ces résultats, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, cette fois nous vous présentons l'un des patrimoines culturels immatériels WBTB des Avoirs occidentales, à savoir Ndok Lewo. Il y a quelque temps, Ndok Lewo a été désigné comme patrimoine culturel immatériel WBTB de la province des Avoirs occidentales. En désignant Ndok Lewo comme patrimoine culturel immatériel, on espère que cela encouragera l'économie et l'attrait touristique culinaire de la région. Ndok Lewo est en fait un aliment typique de Garut. Le nom Ndok Lewo vient de la langue sundanaise, Java occidentale. Le mot Ndok signifie œuf, l'anouk itu étant néférente comme en nom. Pendant ce temps, Lewo est le nom du village qui produit cette nourriture, à savoir le village de Lewo, district de Malangbong, résidence de Garut. Ndok Lewo est également connu sous le nom d'Emplot, est à l'origine petit héron de la taille d'un doigt environ. Mais au fil du temps, sa taille est devenue plus grande. Cette collation est composée de farine de manioc mélangée à la noix de coco râpée, des oignons nouveaux et du sel. Cette pâte est ensuite frite jusqu'à ce qu'elle soit cuite. C'est aussi délicieux. Ndok Lewo peut être consommé comme collation ou en complément de boulettes de viande. Ndok Lewo existe depuis les années 1960. Cette cuisine s'est largement répandue et est célébrée dans de nombreuses régions à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence Garut. Habituellement, les touristes qui passent leurs vacances à Garut achètent Ndok Lewo en souvenir, car il est pratique à transporter partout et également durable. Cette collation peut être achetée dans les boutiques de souvenirs de la résidence Garut avec des saveurs originales et épicées. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre Ndok Lewo. Demain, nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Serge Lutard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie devient le pays avec la meilleure cuisine d'Asie du Sud-Est. L'Indonésie a de nouveau enregistré une fière réussite dans le domaine culinaire. Lors des prix Destatras 2024-2025, l'Indonésie a été nommée le pays avec la meilleure cuisine d'Asie du Sud-Est et classée 7e au niveau mondial. Ce prix de Destatras vise à sélectionner les meilleurs aliments traditionnels du monde. Cette reconnaissance renforce la diversité et la saveur de la cuisine traditionnelle indonésienne qui a captivé les gens du monde entier. Destatras a publié la catégorie des 100 meilleures cuisines du monde ou des pays considérés comme ayant la meilleure cuisine du monde. L'évaluation est basée sur 477 287 évaluations valides pour 15478 aliments dans la base de données Destatras. Au niveau mondial, l'Indonésie a réussi à atteindre la 7e position après la Grèce en première position, l'Italie en deuxième position, le Mexique en troisième position, l'Espagne en 4e position, le Portugal en 5e position et la Turquie en 6e position. La cuisine indonésienne obtient une note de 4,48. À l'échelle de l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie occupe la première position. Chaque année, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
La diffusion étrangère de Radio République Indonésie présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous représentons divers programmes, Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme tronçon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Avec moi, Audrey. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson de Boomerang. Sans retard, Boomerang, un groupe de rock de Surabaya formé par John Paul Ivan et officiellement créé en 1991. L'une de leurs chansons à succès s'intitule Kissa et c'est incluse dans le deuxième album intitulé K.O. sorti en 1995. Kissa a été écrit par l'ancien membre de Boomerang qui à l'époque était encore le chanteur Roy Jikonia Isoka Urangian. Cette chanson a également été incluse dans l'album Bass Ballad sorti en 1999 et c'est devenu le hit numéro 1 de l'album. Bon, chers auditeurs, voici Boomerang va chanter une chanson intitulée Kissa. Bon, écoute.
Seperti dulu, bila kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kita yang kita alami, juga pun yeah.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id. and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Hello, VOI listener. How are you today? I hope all of you are doing great. I'm Rahma. I will accompany you in the 60 minutes ahead with various interesting English programs from Voice of Indonesia. First, we present you the news, followed by commentary, various information, as well as entertainment. Now let's begin with the news, so stay with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world, only on voinews.id or shortwave frequency 3325 and 4755 kHz and RRI Digital Mobile App.
Here is the news for the headlines. Leaders meeting of Indonesian Defense Ministry and TNI 2025 discusses strengthening main weaponry system. Amazing Indonesia 2025 to kicked off in February. I'm Nuka Kusumawati, now the news in details.